Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 24 mars, retour vers le futur. La pression devient intenable dans les hôpitaux d'Île-de-France. On est revenu au niveau des entrées à l'hôpital et en réa d'il y a un an pile, après une semaine de confinement. Nous serons en ligne avec le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Roselyne Bachelot hospitalisée, la ministre de la Culture souffre de problèmes respiratoires. En revanche, sa collègue du travail, Elisabeth Borne, vient de rentrer chez elle. 42 départements sont au-dessus du seuil d'alerte. Le week-end de Pâques s'annonce déjà sous cloche. Le gouvernement ira-t-il encore plus loin? Conseil de défense ce matin. Le Covid qui a aussi des conséquences inattendues. L'épidémie pourrait nous valoir aussi des coupures d'électricité. Football, France-Ukraine ce soir au Stade de France. Première étape sur la route du Mondial 2022 au Qatar. Didier Deschamps teste aussi les Bleus avant l'Euro au mois de juin. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
C'est le moment de choisir l'option dehors en citoyen.
Exactement, parce qu'il fait beau, très beau même, sur l'ensemble du pays. Alors seul bémol, parce qu'il y en a quand même, entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le Cotentin, avec un ciel bien nuageux, quelques gouttes possibles sur le Finistère cet après-midi. Et puis les températures qui vont s'envoler par rapport à ce matin, ça fera du bien, sauf sur le Nord-Ouest, 11 degrés à Brest, 16 à Lille, mais 17 à Paris, ainsi qu'à Nancy et Tours, 18 à Lyon et Marseille, jusqu'à 20 degrés à Bordeaux, Auch et Perpignan.
La question du jour sur RTL.fr. Karim Benzema doit-il revenir en équipe de France? Il y a 14% de oui, 74% de non. Parlons-en, 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour, et nous en parlerons bien évidemment dans les auditeurs et au milieu de ce journal. Les autres sujets du jour, le parti Europe Écologie Les Verts flirte-t-il avec l'islamisme radical? C'est ce que pense la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, soutient les participants du carnaval autorisé de Marseille. Il a dit les Français sont un peuple adulte. Les gens qui vont faire un carnaval le font en responsabilité. Je rappelle qu'ils n'ont pas respecté les gestes barrières et qu'ils ne portaient pas de masque. Avec la situation sanitaire qui se dégrade, faut-il prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19? Nous parlerons de tout ça entre 13h et 14h30.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
On parle souvent de vagues avec ce Covid, mais ça ressemble plutôt à une marée et nous sommes définitivement dans un troisième flux, un an jour pour jour après le premier. Nous ne tiendrons pas longtemps à ce rythme, écrit ce matin Rémi Salomon de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Virginie Garin, regardons les chiffres avec vous. Ceux des entrées en réanimation hier ont dépassé ceux d'il y a un an pile. C'est comme un mauvais retour à la case départ.
Alors, hier, 23 mars, eh bien, 683 personnes sont rentrées à l'hôpital en Île-de-France pour Covid. Elles étaient 688 il y a un an pile. Hier, en Île-de-France, 171 personnes sont entrées en réanimation. Elles étaient 155 l'an dernier. On est au niveau de la première vague et même un peu au-dessus. Alors qu'il y a un an, la France était déjà confinée, un confinement strict, depuis une semaine. Et il avait fallu encore une semaine supplémentaire pour inverser les courbes. Les hôpitaux de Paris ont envoyé hier soir un bulletin à tous leurs soignants pour dire que la situation était, je cite, très très préoccupante et les chiffres en réanimation correspondent parfaitement aux prévisions les plus pessimistes.
Et dans le reste de la France, Virginie, quelles sont les régions les plus tendues?
Alors déjà, le nombre de cas augmente partout, sauf en PACA. Alors, bonne nouvelle, la situation s'améliore un peu. Dans les Hauts-de-France, en revanche, elle continue de se dégrader. Elle est pire que l'an dernier en mars. Le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital est également plus important que lors de la première vague en Rhône-Alpes-Auvergne, en Normandie, en Bretagne, dans le centre. La seule région où les chiffres sont bien inférieurs à ceux de mars dernier, et pour cause, c'était la région la plus touchée, c'est le Grand Est. Mais vous le voyez, Christelle, il y a des inquiétudes avec le développement du variant anglais dans une majorité de régions françaises.
Virginie Garin, partons à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, rejoindre le chef du service de réanimation. Bonjour professeur Djilali Annane.
Bonjour.
Est-ce que dans votre hôpital, vous êtes revenu vous aussi au niveau du premier pic d'il y a un an?
Malheureusement, oui. Malheureusement, effectivement, nous constatons tous les jours des sollicitations de plus en plus nombreuses pour des nouveaux patients, alors que nous n'avons plus de lits disponibles.
Mais oui, voilà, c'était ma question d'après. Est-ce que vous avez encore des marges de manœuvre ?
Nos marges de manœuvre sont devenues quasi nulles, puisque pratiquement, pour vous illustrer, lorsqu'un lit se libère, il est à nouveau occupé dans l'heure qui suit, et on a plusieurs sollicitations pour ce lit qui se libère. Donc on est vraiment dans une situation très critique.
Est-ce que vous avez déprogrammé beaucoup d'opérations à l'hôpital Raymond Poincaré ?
Alors, l'hôpital Raymond Poincaré est l'illustration de la difficulté de la déprogrammation. Parce que la déprogrammation ne peut pas impacter négativement sur les patients dont on décalerait les soins. Donc, on est très limité dans la capacité à déprogrammer, encore une fois, pour ne pas faire courir des risques aux autres patients.
Et là encore, vous avez un petit peu de marge de manœuvre ou pas du tout sur ces déprogrammations ?
On a une marge de manœuvre qui est vraiment infime, qui, allez, puisqu'il faut donner des chiffres, nous permettrait de gagner 24 heures. Donc, vous voyez, c'est insignifiant.
Mais 24 heures, c'est rien du tout.
C'est insignifiant.
Est-ce que vous avez déjà évacué des patients ? Il y a 15 patients seulement qui ont été transférés en dehors de l'Île-de-France ces derniers jours. Est-ce que les familles bloquent toujours ?
Alors, je ne pense pas que les familles soient le principal facteur bloquant. Le principal facteur bloquant, c'est la gravité particulière des patients et leur instabilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui semble être différent de ce qu'on a connu il y a un an. On a aujourd'hui des patients qui arrivent plus vite en réanimation et qui sont plus vite très graves, nécessitant d'être sous coma artificiel et étant vraiment très instable. Et ça, c'est un changement dans le visage de l'épidémie que l'on vit ces derniers jours.
Ça, c'est à cause du variant anglais, professeur Annan ?
Oui, c'est vraisemblablement une facette du variant anglais. C'est vraisemblablement une caractéristique du variant anglais. Les Anglais nous l'avaient laissé entendre, notamment dans des publications scientifiques récentes. Aujourd'hui, on le constate dans la réalité.
Et les patients sont plus jeunes aussi que l'année dernière ?
En effet, on observe indiscutablement une augmentation de la part des patients qui sont âgés entre 20 et 40 ans. En une semaine à peine, ces patients-là en réanimation, il y a à peu près une semaine, représentait un patient sur 20. Aujourd'hui, il représente un patient sur 10.
Ah oui, c'est incroyable. Donc vous avez finalement l'impression d'être confronté à une nouvelle épidémie ?
Absolument. On a vraiment toutes les caractéristiques d'un nouveau visage de l'épidémie, sans vouloir dire nouvelle épidémie, mais en tout cas d'une véritable transformation du phénotype, pour utiliser un terme médical, ou en tout cas de la présentation clinique, notamment des formes graves.
Vous pensez tenir combien de temps comme ça, professeur ?
On tiendra, il faut rester positif, on tiendra, on va y arriver. Ça va être très difficile, c'est déjà très difficile, ça va continuer d'être difficile. On fera avec les moyens du bord, mais il n'est pas question de laisser le moindre patient sur le bord de la route. Donc oui, on va tenir, on tiendra bon, on l'a déjà fait, on a acquis l'expérience. Mais toute aide et tout renfort supplémentaire sera bien évidemment important, que ce soit au travers de la déprogrammation, parce que c'est à peu près la seule réserve possible.
Oui, c'est votre seule marge de manœuvre. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un nouveau confinement, comme le demande Rémi Salomon de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris ce matin ?
Bah, très clairement, tous les efforts que nous faisons, nous, n'ont aucun impact sur la dynamique de l'épidémie. Donc si nous, on fait des efforts pour tenir bon, il faut que, à l'autre bout de la chaîne, on casse la dynamique épidémique. Et on voit bien que les mesures que l'on a depuis une semaine n'ont pas permis d'éviter cette situation. Et il faut vraiment réfléchir. Moi, je ne suis pas à la place du gouvernement ou du président de la République, mais il faut prendre conscience que, on a besoin de cette aide-là. On a besoin que quelqu'un arrive à casser la dynamique épidémique. Et le confinement me paraît être la seule solution crédible.
Et c'est une responsabilité collective, on l'entend. Merci beaucoup, professeur Annan. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Dans les établissements scolaires, 15 000 élèves sont contaminés au niveau national, soit 2/3 de plus en une semaine. Et même si au global, ça ne représente que 0,13% des élèves, c'est très peu, ce sont quand même des chiffres jamais atteints depuis le mois de septembre. Sophie enseigne dans une classe de CE2 du 14e arrondissement de Paris et elle est angoissée.
C'est vrai que je vais travailler depuis un petit moment avec la peur au ventre tous les jours. Il y a beaucoup de cas dans l'école, beaucoup de cas parmi les enseignants, certaines personnes qui ont plusieurs fois déjà attrapé le Covid. C'est un stress total pour nous. On a face à nous des enfants qui sont mal protégés, qui ont des masques qui ne sont pas renouvelés tous les jours, qui sont rarement renouvelés le midi, qui ne sont pas forcément propres. Donc on les met en danger, on se met en danger, on met en danger notre famille, nos proches, et je trouve ça inadmissible. Ils le portent sous le nez, ils l'enlèvent pour parler ensemble dès qu'on ne les voit pas. Et on essaie de les rappeler à l'ordre, mais on ne peut pas faire ça toute la journée en plus de tout ce qu'on fait déjà avec eux.
Sophie, interrogée par Juliette Jay. 2000 classes sont actuellement fermées dans toute la France. Il y en avait 800 la semaine dernière. Parmi les personnes hospitalisées en région parisienne figure ce matin Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui souffre de problèmes respiratoires. William Galibert.
Oui, Roselyne Bachelot restera hospitalisée plusieurs jours. Comment va-t-elle ? Pour l'instant, on se fie surtout à son entourage qui nous dit que c'est de la surveillance, que c'est du repos forcé. On nous précise que la ministre est actuellement dans une chambre normale, pas de dispositif particulier. Son état est stable, disait ce matin l'un de ses proches. Voilà, ça c'est le bulletin de santé officiel. Mais un conseiller ministériel, lui, croit savoir que cet état de santé s'est dégradé dans la nuit de lundi à mardi, ce qui expliquerait cette hospitalisation, notamment en cas de problème respiratoire persistant. On n'en sait pas plus, donc on ne va pas s'avancer davantage. On peut seulement rappeler que Roselyne Bachelot a 74 ans et qu'elle avait pourtant reçu une première dose de vaccin quelques jours avant de tomber malade. Une première dose seulement, pas assez pour être suffisamment protégée face au virus.
Et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, elle est sortie de l'hôpital. Dans un tweet, elle remercie le personnel soignant. J'ai une pensée, dit-elle aussi, pour nos concitoyens qui luttent en ce moment contre le virus. Le gouvernement continue à être au niveau d'alerte, hein, puisque 42 départements dépassent le seuil d'alerte de nouveaux cas de Covid. Conseil de défense ce matin avant le Conseil des ministres, comme tous les mercredis. Après le confinement light annoncé la semaine dernière, cette fois, l'exécutif est au pied du mur, Vincent Derosier.
Oui, et encore ce matin, le président a regardé les courbes de contamination avec inquiétude, car pour l'instant, l'épidémie va beaucoup plus vite que la campagne de vaccination qu'il a promis d'accélérer. Pour autant, Emmanuel Macron n'a pas l'intention, selon son entourage, de renverser la table et de renvoyer les gens chez eux, comme en mars dernier. Ça sera soit statu quo, soit un petit élargissement des départements sous cloche, croit savoir un conseiller de l'exécutif. Pour les 16 départements déjà visés, il n'est pas prévu non plus de renforcer les restrictions. Le chef de l'État veut attendre au moins 10 jours pour voir si les mesures prises produisent des effets. En fait, au sommet de l'État, tout le monde est conscient que la situation est critique. Les alertes nombreuses du monde médical ont été entendues. Mais Emmanuel Macron l'a dit hier à Valenciennes, les mesures prises ne valent que si elles sont respectées par tous les Français. Et au gouvernement, ils sont une majorité aujourd'hui à penser que les Français n'en peuvent plus et qu'un nouveau confinement dur ne serait pas respecté, notamment avec le retour des beaux jours. Faute de mieux, Emmanuel Macron a choisi pour l'instant de faire confiance aux Français.
Vincent Derosier, Jean Castex prévient quand même ce matin dans Le Parisien. Pour Pâques, pas de chasse aux œufs, pas de grande table et pas d'assouplissement pour les 16 départements plus ou moins confinés. Quant à l'Allemagne, eh bien finalement, Angela Merkel renonce à imposer une semaine de Pâques sous cloche avec fermeture des commerces et sans office religieux. Et à l'instant, elle reconnaît même une erreur et elle demande pardon à ses concitoyens. Et si le Covid nous valait des coupures de courant, on en parle dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Le Covid a des conséquences parfois surprenantes. On risque des coupures d'électricité durant les 3 prochains hivers. Le gestionnaire du réseau RTE affirme déjà qu'il y aura une vigilance particulière car la crise bouscule aussi la gestion du parc nucléaire. Éric Vanier.
Oui, au printemps dernier, surtout lors du premier confinement, les opérations de maintenance et de grand carénage, c'est-à-dire de rénovation des réacteurs pour prolonger leur durée de vie, ont pris du retard. Et tant que ces visites de contrôle et de modernisation ne sont pas réalisées, les centrales nucléaires ne peuvent pas produire. Elles doivent rester à l'arrêt. Il faudra plusieurs années pour rattraper ce retard. D'où ce matin, alors que l'on vient juste de sortir de l'hiver 2021, l'alerte déjà lancée par Xavier Piezagic, le président de RTE qui gère le réseau haute tension d'électricité.
Le système électrique ne disposera que de marges très faibles sur cette période 21-24 et l'hiver prochain présente un niveau de risque plus élevé qu'un hiver normal. Et nous le plaçons cet hiver d'ores et déjà sous vigilance particulière.
Sous vigilance particulière, ça veut dire qu'il faudra un pilotage très fin du réseau électrique, anticiper les approvisionnements en électrons ou prendre des mesures préventives pour faire baisser la consommation, et cela pour éviter des incidents et des coupures, d'autant plus qu'il ne faudra pas compter sur l'EPR de Flamanville avant l'hiver 2024, au mieux.
Éric Vanier. La mosquée de Strasbourg en chantier qui s'annonce comme la plus grande d'Europe fait l'objet d'une nouvelle polémique. La mairie écologiste a voté le principe d'une subvention de plus de 2 millions d'euros. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'indigne car la fédération qui soutient cette mosquée a refusé de signer les principes de la charte de l'islam de France. Marlène Schiappa a surenchéri ce matin, estimant que les écologistes, je cite, flirtaient dangereusement avec les thèses de l'islamisme radical. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, lui répond.
Je vous rappelle juste que cette mosquée n'a pas été lancée par Jeanne Barzéguin, mais que la première pierre a été inaugurée par l'ancien maire, M. Riss, pas très éloigné de La République En Marche. Que c'était en 2017 et qu'en 2017, Emmanuel Macron était déjà président de la République. Que se trouvait à cette inauguration l'ancienne maire, qui est également une députée européenne en marche aujourd'hui, Fabienne Keller, et que se retrouvait également dans cette inauguration le représentant de l'État, à savoir le préfet, M. Marx. Deux choix. Soit cette association était dangereuse et les autorités ont fermé les yeux, soit elle ne l'est pas et ce n'est qu'un coup politique. Dans les deux cas, c'est quelque chose de très grave.
Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, interrogée par Marie-Bénédicte Allaire. Le monde leur appartient, c'est le titre de l'équipe ce matin pour saluer le début d'une longue marche des Bleus. À moins de 3 mois de l'Euro, les champions du monde de football démarrent ce soir au Stade de France les qualifications pour le Mondial 2022 avec un France-Ukraine. Alors, ils avaient corrigé les Ukrainiens avec un 7-1 il y a 5 mois. C'est aussi un rassemblement où Didier Deschamps va faire ses derniers arbitrages en vue de sa liste pour l'Euro, Nicolas Georgerot.
Oui, France-Ukraine, puis 2 autres rencontres et ce sera terminé. Et les ajustements ne se feront qu'à la marge. Sur les 23 qui iront à l'Euro, il devrait y avoir 13, 14, 15 champions du monde. Le renouvellement a été amorcé par Didier Deschamps. C'est le moment de s'illustrer, c'est le moment de s'appliquer.
Ils savent que là-dessus, les initiatives, il y a une grande liberté, mais c'est toujours dans un cadre collectif comme à chaque fois. Peu importe le temps de jeu qu'ils ont, à eux de faire en sorte, à travers le collectif, d'être le plus performant possible.
Alors certains mondialistes sont en balance. C'est le gardien Alphonse Areola, le milieu Thomas Lemar et l'attaquant du Barça, Ousmane Dembélé, qui n'est plus venu en bleu depuis novembre 2018. Raphaël Varane est un soutien.
On est très content de se retrouver, de le revoir. Il crée aussi du spectacle, il est beau à voir jouer. Mais je pense que ces qualités-là, dans n'importe quelle équipe d'Europe, c'est un joueur qui apporte beaucoup. C'est forcément un profil intéressant. Tant mieux d'avoir dans le groupe un joueur comme Ousmane.
Corentin Tolisso, blessé, quasi forfait pour le championnat d'Europe. C'est Tanguy Ndombele, le milieu de Tottenham, qui espère valider sa présence pour la compétition en juin prochain.
Et France-Ukraine, rendez-vous dans RTL Foot sur RTL entre 20h et 23h, présenté par Eric Silvestro et Xavier Domergue. Alors dans la liste de Didier Deschamps, toujours pas de Karim Benzema, d'où la question du jour sur RTL.fr. Doit-il revenir en équipe de France? C'est une question que vous allez poser aux auditeurs au 32-10, Pascal Pro.
Effectivement, Christelle, d'abord c'est le meilleur buteur. Le meilleur numéro 9, plus exactement, de l'histoire du football français. Donc ça serait un argument. C'est le meilleur buteur français de la Ligue des Champions. C'est un buteur qui est dans le top 10 du Real Madrid. C'est un joueur qui, effectivement, est exceptionnel. D'autant que Griezmann n'est pas très bon en ce moment et que Giroud n'est pas titulaire à Chelsea. Il n'a plus joué depuis 2015 en équipe de France, depuis quasiment 6 ans. Donc c'est sans doute effectivement trop tard, il a aujourd'hui 33 ans, malgré tous ces arguments. Un joueur qui n'a pas joué depuis 6 ans, qui a un vécu aussi lointain avec l'équipe de France, championne du monde, c'est compliqué pour Didier Deschamps de le resélectionner.
Alors,
D'autant qu'il y a des antécédents.
Christian Olivier, le chef du service des sports, nous a rejoint évidemment dans ce studio. Christian, pourquoi ces performances au Real Madrid ne suffisent-elles pas?
Ah, vous voulez commencer donc par le Real Madrid? Moi, je croyais qu'on était là par, pour parler notamment de l'équipe de France, mais parlons du Real Madrid. Et là, vous avez raison, effectivement.
Vous avez raison.
Hein. Galactique, formidable, magique. C'est deux salles, deux ambiances, le Real Madrid et l'équipe de France. Effectivement, sous les ordres de Zidane, Benzema délivre chaque week-end des matchs extraordinaires. Et effectivement, il sauve son équipe chaque week-end de mauvais pas et de la crise. Il marque des buts, Pascal en a parlé, 370 matchs au sein du Real Madrid, sous les couleurs du Real Madrid, 272 buts au total. Cette saison, 15 buts, effectivement. Et quand il est titulaire, c'est 75% de matchs gagnés. Mais c'est Benzema dans un dispositif avec le Real Madrid et sous les ordres de Zidane. Non pas avec un dispositif équipe de France et sous les ordres de Didier Deschamps.
Mais la vérité, c'est qu'il y a eu un point de rupture. Karim Benzema a dit,
avec Didier Deschamps, non ?
Il a dit un jour, Didier Deschamps a cédé à une partie de la France raciste. Ce jour-là, c'était terminé.
Ça, c'est
pour Karim Benzema. Oui, mais c'est ce qui
c'est
motive.
Important. Vous avez raison, c'est important. Il y a aussi le deuxième volet sportif équipe de France. Mmh. 81 sélections. Il n'a jamais fait un match véritablement extraordinaire en équipe de France. 33 ans.
Contre l'Ukraine, il avait
33
été
33
bon.
Ans, ce n'est pas l'avenir des Bleus. Domenech, même Domenech ne l'a pas appelé à Meissner. Il n'était pas en équipe de France. Et Deschamps a été champion du monde et vice-champion d'Europe sans Karim Benzema. Mais voilà. Effectivement, il y a ce feuilleton judiciaire depuis 5 ans. Et on rappelle quand même que Benzema encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, puisque pour tentative de chômage, il a été renvoyé avec 4 autres protagonistes en correctionnel.
De tentative de chantage.
Et ça compte pour un Deschamps qui a souffert là-dessus.
Merci. On a posé les éléments factuels. À vous de nous dire ce que vous en pensez au 32-10. Merci messieurs. Une pause dans un instant, l'arrestation d'un gros bonnet de la drogue.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il était considéré comme le roi du shit en France, cible numéro 1 de l'Office central des stupes. Moufid Bouchibi, alias Mouf, 41 ans, plus gros importateur de cannabis en France, a été interpellé à Dubaï dimanche soir. Alors on attend une confirmation formelle, une identification formelle. Si c'est le cas, c'est quand même une sacrée prise, Alice Moreno.
Oui, les enquêteurs ont tenté de lui mettre la main dessus tant de fois. En 2012, il est au Maroc, disparaît, réapparaît en Algérie, s'évapore une nouvelle fois en 2019 alors qu'il est en Tunisie, et c'est finalement à Dubaï où il avait l'habitude de planquer une partie de son magot qu'il aurait été arrêté. Mouf était dans le top 5 des trafiquants français les plus recherchés. Il a 20 ans de carrière dans les stupes, gérait un réseau tentaculaire d'importation de cannabis vers la France, un business qui lui rapportait des dizaines de millions d'euros par an. Le criminologue Jérôme Pierrat parle d'un baron de la drogue particulièrement malin.
Mouf, c'est pas un garçon qui parle comme un caïd de banlieue. Si vous le croisez demain, vous aurez l'impression qu'il pourrait être cadre sup dans l'industrie. Bien souvent, c'est des gens qui n'ont pas évidemment le profil de la petite terreur. On se rappelle d'un Redouane Faïd, hein, et ses costumes et son langage courtois. Bah là, on est un peu dans le même type de profil, ouais.
Il blanchissait des sommes astronomiques, achetait de luxueuses villas à l'étranger sous le nom de ses proches. Mais la période faste semble bel et bien achevée. Il doit maintenant être extradé vers la France, où il a déjà été condamné à 20 ans de prison alors qu'il était en cavale.
Récit Alice Moreno.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Montpellier pour une belle histoire de solidarité. Une jeune femme a décidé de venir en aide à un livreur Deliveroo. Ses postes précaires et physiques sont généralement occupés par des jeunes. Or là, il s'agit d'un homme de 75 ans, Patrick Tégéraud.
Eh bien, Lisa a 28 ans. Elle a souvent croisé ce monsieur que nous appellerons Pierre. Sur son vélo, Pierre porte la tenue bariolée des livreurs tous les soirs de 18h à minuit. En faisant des recherches, Lisa a découvert un article de Midi Libre d'il y a 2 ans où Pierre expliquait qu'il s'occupait de son épouse handicapée toute la journée et qu'il faisait le livreur pour pouvoir lui offrir un fauteuil roulant. Car pas question de solliciter la famille ou ses enfants qui, eux aussi, ont leurs propres difficultés. Alors, malgré les risques de l'épidémie, surtout quand on a 75 ans, Pierre pédale le soir, lourdement chargé. Lisa a pensé à son grand-père qui lui aussi s'était sacrifié pour sa famille. Elle a donc lancé une cagnotte. En quelques jours, près de 700 personnes ont donné 7 670 euros à l'heure où je vous parle. De quoi faire une bien bonne surprise, car Lisa ne connaît pas encore Pierre. Elle espère pouvoir le contacter par l'intermédiaire du journal Midi Libre qui s'est fait l'écho récemment de sa généreuse initiative.
Et on y croit, merci Patrick Tégéraud. Le canal historique a été rouvert. Un porte-conteneur de 400 mètres de long s'est échoué dans le canal de Suez en Égypte, bloquant le trafic sur cette route commerciale qui est l'une des plus fréquentées du monde. Des opérations sont en cours pour débloquer le cargo et la circulation a finalement repris dans les deux sens. Ça rappelle un peu l'histoire de la sardine qui avait bouché le vieux port de Marseille. En réalité, c'était un bateau, c'était le sardine. Mais la légende a fait le reste. Pascal Praud, vous dialoguez donc avec les auditeurs. Alors donc, on a parlé de foot, ça c'est fait.
Beaucoup
pour
de
le
sujet.
Reste.
Le parti Europe Écologie Les Verts qui flirte avec l'islamisme radical, et c'est pas moi qui le dis, c'est Marlène Schiappa, ça va être un sujet. Évidemment, hein, c'est la mosquée de Strasbourg dont vous avez parlé. Et puis, L'autre affaire dont on parle finalement assez peu, c'est la position de Jean-Luc Mélenchon, quand même, qui a expliqué que les Français sont un peuple adulte. Les gens qui vont faire un carnaval le font en responsabilité. Il a pris la défense des gens qui étaient à Marseille, et je rappelle qu'ils étaient sans masque, sans gestes barrières. Donc ça, ça peut faire réagir.
À tout de suite. La météo, Peggy Broche, et en plus, il fait très doux.
C'est vrai, Christelle, une vraie journée printanière. 20 degrés prévus cet après-midi à Perpignan, Auch, Bordeaux, 19 à Nîmes et Toulouse, ainsi qu'à Agen et Grenoble, 18 à Toulon, Limoges, 17 à Paris, Dijon, Metz et Bourges, 16 degrés au Mans, et alors un petit peu juste du côté de Cherbourg, seulement 11 degrés sous les nuages, puisqu'entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Basse-Normandie, le ciel est bien nuageux, avec quelques faibles pluies normalement prévues cet après-midi sur le Finistère. Un ciel un petit peu plus voilé qu'à l'heure entre le Poitou et le Nord-Pas-de-Calais, mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps de toute façon, et un ciel tout bleu partout ailleurs.
Bon, alors que demain, les nuages vont s'imposer quand même.
Et oui, entre la façade atlantique et les frontières du Nord, là, le ciel sera souvent bien chargé, avec quelques gouttes ici ou là, pas grand-chose, mais tout de même. Et puis, ça va se morceler au fil des heures, mais les nuages resteront nombreux, de part et d'autre, un temps sec et plus lumineux, même très beau encore, hein, entre les Pyrénées et le Sud-Est. Mais ça restera couvert, avec quelques averses sur le Nord-Bretagne et Cotentin. Du coup, avec les nuages, il n'y aura plus de gelée demain matin, les minimales seront comprises entre 1 et 10 degrés, et les maximales vont baisser, sauf près de la Méditerranée, avec des températures comprises entre 16 à Nice et 21 à Nîmes, et de 12 à 17 degrés ailleurs, 12 à Brest, 14 à Paris, Lille et Strasbourg, 15 à Toulouse et Bordeaux, et 17 à Lyon.
C'est quand même pas mal, merci Peggy.
Il est 13h.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La mosquée de Strasbourg, soutenue par une fédération qui défend l'islam politique. C'est en tout cas le point de vue de Gérald Darmanin. Une subvention de 2,5 millions d'euros. Et ça fait évidemment débat. Nous sommes avec Rida, qui habite précisément Strasbourg. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes contre ou pour cette subvention votée par la mairie de Strasbourg ?
Ben, par principe, j'y suis pas opposé. Et je n'ose pas croire que la maire de Strasbourg soit de connivence avec des associations politiques étrangères.
On va développer évidemment cette idée, mais le rappel des titres avec Christelle.
Ça va taper, avait prévenu la semaine dernière Emmanuel Macron. Eh bien, nous y sommes. En Ile-de-France, le nombre d'entrées à l'hôpital et en réanimation est le même que celui d'il y a un an pile après une semaine de confinement. 42 départements sont au-dessus du seuil d'alerte. Y aura-t-il de nouvelles restrictions ? Un conseil de défense s'est tenu ce matin. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, âgée de 74 ans, a dû être hospitalisée. Son état n'inspire pas d'inquiétude, assure son entourage. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, elle, vient de quitter l'hôpital. L'Allemagne renonce finalement à passer Pâques sous cloche. Le verrouillage renforcé sans commerce et sans office religieux très controversé ne sera pas mis en place. Angela Merkel reconnaît une erreur et demande pardon à ses concitoyens. En rugby, à l'instant, l'ouvreur Romain Ntamack et le deuxième ligne Bernard Leroux retrouvent leur place de titulaire dans le 15 de départ qui affrontera l'Écosse vendredi au Stade de France. C'est un match décisif pour la victoire dans le tournoi des Six Nations.
Merci Christelle.